So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
Bonjour à toutes et tous. Nous sommes Anaïs Hiver et Laurie Soulabaille, formatrices en FLE, français langue étrangère à langue et communication. Pour ce nouveau projet radiophonique, avec le groupe de stagiaires que nous avons accompagnés, nous avons choisi de parler de l'alimentation. La nourriture rassure, réconforte, elle est le lien entre le passé et présent, l'ici et l'ailleurs. C'est ce qui reste, ce qui tient, dans un environnement mouvant où les incertitudes ponctuent les quotidiens. C'est ce qu'on partage avec nos proches, mais aussi avec l'étranger, comme une carte de visite qu'on aurait plaisir à offrir. Manger, c'est universel, mais on ne mange et ne cuisine pas toutes et tous de la même façon. Les stagiaires ont envisagé la dimension écologique, la dimension géographique, culturelle et sanitaire de l'alimentation, en dévoilant des mécanismes propres à leur pays d'origine. Ils se sont questionnés sur les régimes alimentaires, et notamment sur le véganisme, avec Agathe Cornil, que l'on remercie du temps qu'elle nous a accordé. Notre alimentation, c'est aussi notre consommation. Le groupe a pris un malin plaisir à parodier des publicités de produits ultra transformés. On remercie l'implication des apprenants Sadaf, Abdirani, Cher, Firdos, Anan, Sarah, Igor, Carlos, Safia et Tamar pour avoir partagé une spécialité de leur pays, leurs habitudes alimentaires et leur rapport à la nourriture. Nous avons une pensée spéciale pour Choukri, Massagid et Tarek qui n'ont pas pu mener le projet jusqu'au bout.
Cette émission est en deux volets. Vous entendrez aujourd'hui le premier et le second volet la semaine prochaine, le samedi 11 avril.
Bonjour, bienvenue dans l'émission des stagiaires de langue et communication. Gamar Jobat.
Iska Warren.
Salam alaikum.
Salam.
Привет.
Salam alaikum.
Samedi.
Salam alaikum.
Buenos días.
Malou en accent.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cuisine du monde.
Pour ce projet radio, nous avons rencontré et interviewé
Élise et Clément du Refugee Food Festival.
La membre de l'association Parak Terrine.
Et Zaliata Tradiouk Amorez Arin.
Nous avons aussi réfléchi à nos rapports à la cuisine.
Ce que veut dire pour nous de partager un peu au repas.
Nous avons parlé ensemble de plats traditionnels de nos pays d'origine.
Et nous sommes tous d'accord pour dire que la cuisine rapproche les gens.
Première chronique. Les stagiaires nous racontent ce que bien manger veut dire pour eux.
Pour moi, bien manger, c'est manger les choses qu'on aime avec
les personnes qu'on aime.
C'est manger les choses qu'on aime avec les personnes qu'on aime. Et c'est aussi manger sain.
Oui, c'est important de manger ça pour la santé.
Pour moi, un bon repas, c'est un repas avec beaucoup de légumes et de protéines.
Pour moi, un bon repas, c'est un repas avec beaucoup de légumes et de viande naturelle.
Pour moi, c'est un repas avec beaucoup de légumes, de viande, de bœuf et de riz.
Pour moi, il faut beaucoup de viande, de riz et beaucoup de fibres et il faut aussi un peu de haricots.
Pour moi, un bon repas, c'est un repas avec beaucoup de légumes, de viande et beaucoup de fruits.
Pour moi, un bon repas, c'est un repas avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et de l'eau.
Pour moi, un bon repas, c'est un repas avec beaucoup de légumes et de savoir.
Pour moi, il faut beaucoup de riz et de piment.
À la fin d'un grand repas, c'est important de faire la sieste.
Mais il fait beau de sucre et de graisse comme le beurre.
Oui, il faut beau de sucre et beau de gras.
Alors, il ne faut pas manger de pâtisserie et de plats frits ou de restaurants rapides.
Je pense que c'est difficile de manger ça, car le fast-food sont partout. Il y a beaucoup de sucre, de lait, les produits préparés.
Pour moi, c'est facile de manger ça, car je ne suis pas gourmand du sucre ou du chocolat. En France, je peux trouver des aliments frais et traditionnel comme on trouve en Somalie, Par exemple, la viande du bœuf est le riz, mais en France, il n'est pas de viande de chameau ou de lait de chamel, comme boit traditionnellement en Somalie.
Je pense que c'est facile de manger sans car on peut choisir les aliments frais et les cuisiner à la maison.
Je pense que c'est difficile de manger sain, car ce n'est pas très beau au goût et cela prend beaucoup de temps de préparation.
Pour moi, c'est facile de manger sain, car j'aime les légumes, les fruits et la viande et que je cuisine à la maison.
Moi, je pense que c'est difficile de manger ça, car il faut prendre beaucoup de temps pour préparer le repas avec des produits naturels et les aliments coûtent cher.
Moi, pour ma santé, j'ai arrêté de manger du sucre et des buts de sang. C'est facile, je mange des dattes à la place. Je remplace des thés et le café par des tisanes, des biscuits, j'adore la tisane.
Canal B, radio curieuse.
À présent, des chroniques individuelles avec des recettes traditionnelles.
Bonjour, je m'appelle Tamar et je suis géorgienne. J'aimerais vous parler d'une spécialité de mon pays, la Géorgie. Ça s'appelle khinkali. C'est un plat à base de viande. On le prépare avec de la viande, de l'eau, de la farine et du poivre noir et du cumin. D'abord, on mélange la viande hachée avec les épices et on mélange bien. Puis on ajoute les épices, de l'oignon et de l'ail. Ensuite, on prépare la pâte, on la coupe en petits morceaux et on l'étale. Après, on met la viande à l'intérieur et de la pâte et on ferme. Enfin, on met cela dans le bouillon et c'est prêt. On peut la manger avec du poivre. J'aime ce plat car il est traditionnel et délicieux. Ça m'a fait penser au bon moment passé avec les miennes. On s'est réunis aussi lors de fêtes religieuses pour manger. Et justement, je voudrais parler du jeûne chez le chrétien, car souvent nous parlons du jeûne de musulman, le ramadan, mais le jeûne est important aussi dans la religion orthodoxe. Dans l'église orthodoxe, il existe plusieurs grandes périodes de jeûne. Le grand carême avant Pâques, il dure 7 semaines, c'est le jeûne le plus important. Le jeûne de la nativité avant Noël, il commence le 28 novembre et se termine le 7 janvier. Il dure 40 jours. Le jeûne des apôtres commence après le Pentecôte et se termine le 2 juillet. Sa durée varie chaque année. Il peut durer de 8 jours à 6 semaines car il dépend de la date du Pâques. Le jeûne de la dormition a lieu du 14 au 28 août et dure 2 semaines. Le mercredi et le vendredi sont souvent des jours de jeûne. Pendant le jeûne, les fidèles ne mangent pas de produits d'origine animale. Ils ne mangent généralement pas de viande, de produits laitiers, d'œufs et parfois de poisson. C'est un moment spirituel loin de la société de consommation. La nourriture géorgienne est saine, mais il y a beaucoup de fast-food, de sucreries et de produits à base de pâtes. Il y a beaucoup de maladies alimentaires car on utilise beaucoup de pesticides. Il y a beaucoup de cancers. En France, je mange plus de fromage, de viande et de légumes. Et je mange moins de fast-food et de produits à base de pâtes. En Géorgie, je ne mange pas bio parce que c'est trop cher. En France, j'essaye d'acheter plus de produits bio, surtout pour mon enfant.
Bonjour, je m'appelle Carlos et je suis péruvien. Je adore manger. Je fais mes courses au supermarché, dans les épiceries et au marché. J'achète en vrac dans un grand marché tous les dimanches. Les agriculteurs viennent et vont des pommes de terre, du miel, du sauf, du maïs, des légumes. Je prends tous les jours mon sac, car les sacs sont chers sur le marché. Donc tout le monde apporte son sac, son chariot. En France, il y a plus d'emballages qu'au Pérou. Je mange beaucoup de repas industriels, tout fait au Pérou. Il y en a un peu, mais personne n'achète, car on dit que ce n'est pas bon pour la santé. Il n'y a pas d'éducation à l'alimentation au Pérou, mais personnes sont plus proches à la nature. Elles n'aiment pas manger ce que c'est industriel. Il n'y a pas de cancer lié à l'alimentation. Tout le monde cuisine, il y a beaucoup de frites, de légumes. On mange beaucoup de poulets, de pommes de terre, de riz, de céréales, de poissons, de légumes, de porc, de fruits, de maïs. En France, on n'aime plus pas l'automne. Je n'aime pas l'automne de cuisiner quand je travaille. Et alors, je vais le plus simple. J'achète des plats industriels et en plus, ce n'est pas cher. Il y a des produits moins chers en France, comme le porc et le crevette. En revanche, le bœuf est plus cher qu'au Pérou. Je ne mange pas bio en France, car il n'y a pas beaucoup de choix. Je ne peux pas acheter des produits bio qui viennent de loin. Pour moi, ce n'est pas bio. Et il y a beaucoup ici dans le supermarché.
Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis afghane, mais je vis en Iran. Je vous parler d'une spécialité de mon pays d'origine, l'Afghanistan. Ça s'appelle Kabouli. On l'a préparé avec du riz, de la viande, des raisins secs, des oignons, des carottes, de l'huile de sésame, de l'ail, du cumin. D'abord, on fait faire la viande et les oignons avec l'ail et on fait bouillir le riz et on ajoute les carottes coupées avec le raisin sec. Ensuite, on les met sur la gaz pendant 2 heures. Enfin, on a préparé la farine, c'est comme une crêpe, et on les mange ensemble. On peut le manger avec de l'eau de la salade. J'aime ce plat car il est délicieux. Ça m'a fait penser des moments en famille ou entre amis. Car pour moi, un repas convivial, c'est un moment de partage et de rire. En Iran, on mange beaucoup de viande, de bœuf et de mouton. On utilise beaucoup de farine, on mange beaucoup de riz, de pâtes, de légumes et de produits laitiers. C'est bon pour la santé. On boit beaucoup de boissons sucrées comme le coca, le chocolat au lait. Le café et le thé sont très sucrés. C'est moins bon pour la santé. Il y a beaucoup de diabète à cause de boissons sucrées. En France, je mange plus de riz et de viande. Je mange moins de fruits et de légumes car je n'aime pas les fruits et les légumes en France. Je trouve qu'ils n'ont pas de goût. En Iran, il y a beaucoup de produits bio dans les petits magasins, mais pas dans les supermarchés. En France, j'achète parfois bio, car les légumes bio ressemblent aux légumes de mon pays.
Bonjour, je m'appelle Abdikani, je suis somalienne. Je vous parle d'une spécialiste de mon pays, ça s'appelle Brice Yvelip. C'est un plat à base de riz et de viande. On le prépare avec du riz, de la viande, du bœuf, des oignons, de l'ail, de l'huile, des épices, mais je ne sais pas lesquels. D'abord, on fait revenir la viande dans l'huile avec les épices. On fait cuire le riz dans l'eau. Ensuite, on ajoute les oignons, l'ail, de la sauce tomate, des pommes de terre. On laisse mijoter 10 minutes et on ajoute le riz. On le partage avec la famille dans le même plat. C'est la culture en Somalie. On peut le manger avec des bananes ou de la salade. J'aime ce plat car c'est très bon et traditionnel. Mais surtout, ça me rappelle la culture somalienne et les moments de partage. Je pense alors à ma famille qui ont resté en Somalie. Pour moi, un repas convivial, c'est quand je mange avec mes amis. Chez moi, on ne mange pas à table. On mange dans le même plat tous ensemble avec la main assise par terre sur un tapis. C'est pour ça qu'il est obligatoire de se lever la main avant de manger. Je viens de la Kambani où on mange beaucoup de viande de chèvre, de riz, de haricots rouges et les bas de fruits ou de légumes. On boit du lait de chamel. On met beaucoup de sucre dans les poissons. Dans l'école en Somalie, on nous parle de l'alimentation et de la santé, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dents à cause du thé et du café, du stress sucre. Je vois quand on force les personnes, on moi les dents abîmées.
Bonjour, je m'appelle Cher et je suis laotienne. J'aimerais vous parler d'une spécialité de mon pays, le Laos. Ce sont les nems de poulet aux petits légumes. C'est à plat à partager. On les répare avec des oignons, des carottes, des œufs, du vermicelle, de l'ail, de sel et de poivre. Il faut les manger quand ils sont chauds. Les meilleurs sont ceux de ma maman. Ça me fait passer à elle. J'ai appris la recette avec elle. J'aime ce plat car il me rappelle la chaleur de ma mère, de ma grand-mère aussi. Avant, chez moi, mes grands-parents ne mangeaient pas sa table. Ils mangeaient pâté sous un tapis. Mais maintenant, nous mangeons tout sa table. Dans mon pays, il y a beaucoup de sucre. Les personnes ont des problèmes de dents. Il y a beaucoup de personnes qui paient de le dents. Mais il y a beaucoup de légumes et fruits bio. C'est plus facile de manger bio au Laos qu'en France. Ici, c'est très cher.
Radio Curieuse.
Bonjour, je m'appelle Igor et je suis Biélorusse. J'aimerais parler d'une spécialité de mon pays, la Biélorussie. Ça s'appelle draniki. C'est un plat à base de pommes de terre. On le prépare avec deux œufs et deux oignons, de la crème fraîche et du sel. D'abord, on épluche les pommes de terre et les oignons. On râpe les ingrédients. Ensuite, on les mélange dans un grand bol. On ajoute une cuillère de crème fraîche. Ensuite, on verse un peu d'huile dans un poêle. On fait chauffer le poêle. Enfin, on façonne des petites galettes avec la préparation des pommes de terre. Et on les fait frire de deux côtés. Et c'est prêt. On peut les manger avec de la crème fraîche. J'aime ce plat, car quand j'étais petit, ma mère me préparait souvent. Je sais délicieux. Pour moi, un repas convivial, c'est quand on cuisine ensemble. C'est aussi avoir des conversations amusantes autour de la table. C'est un rencontre avec l'autre. On partage le repas, on discute, on réfléchit ensemble, on refait le monde. On partage le bonheur et le plaisir d'autres ensemble. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans la journée où on peut parler tous ensemble. Chacun a ses activités et ses pendant les repas qu'on peut programmer de projets communs. Dans mon pays, il est très mal poli de manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre à table. Il est aussi interdit de jouer avec la nourriture.
Bonjour, je m'appelle Hanan, je suis soudanais. J'aimerais vous présenter une spécialité de mon pays, le Soudan. Ça s'appelle le poulet à la crème. C'est un plat passe de blanc, de poulet et de crème. On le prépare avec des champignons, de l'oignon, de l'ail, de la crème et du poivre, de la cannelle, du persil et un mélange de 7 ibis. Ça m'a fait penser au moment heureux en famille. Repas partagé avec amour. Ça me rappelle la grande table avant la guerre que nous entendons tourner avec ma mère, mes frères, mes sœurs et nos enfants et que toute ma famille aime goûter ma cuisine. Pour moi, un repas convivial, c'est un repas partagé avec ma famille dans la joie, la simplicité. On parle, on rit, on est ensemble. On se rend compte de souvenirs et on reste longtemps à la table. Pour moi, le plus important, ce n'est pas seulement la nourriture, mais la présence de la famille autour. Le repas au Soudan se compose d'un plat à base de viande, de boisson ou de poulet, accompagné de salade, une boisson, de jus ou de thé. Il y a toujours de la sauce pimentée, chata, avec du riz, du pain ou de la kisra, comme on crêpe. Après le repas, on boit du thé ou du café. Au Soudan, on déjeune plus tard qu'en France, vers 15h ou 6h. Les horaires sont plus flexibles. Chaque billet a son rythme. Il est mal poli de porter la bouche pleine, de faire du bruit en mangeant, de regarder son téléphone à table. Il est aussi mal poli de mettre les codes sur la table.
Bonjour, je m'appelle Safia et je suis somalienne. En Somalie, dans les grandes villes, il y a beaucoup de légumes frits, il n'y a pas de beaucoup de fast-food. Par contre, on met beaucoup de sucre pour le thé et le café et ça, ce n'est pas bon pour la santé. Il n'y a pas beaucoup de produits transformés, mais il y a des personnes qui sont malnutries. Dans mon pays, je mange bio car les produits sont plus naturels, il y a moins de pesticides. En France, on en mange plus de légumes et de bas et je mange moins de sucre et de nourritures grasses. J'achète parfois des produits bio car il y en a dans les supermarchés et les marchés.
Bonjour, je m'appelle Sadaf et je suis afghane. Je vais vous parler d'une spécialité de mon pays, l'Afghanistan. Ça s'appelle ashak. C'est un plat à base de farine, d'eau et de sel avec une farce. Un peu comme des raviolis, on le prépare avec des épinards, des oignons et du persil. On verse la sauce tomate et le yaourt sur le ravioli. Un peu mettez des feuilles de menthe dessous. Et voilà, c'est prêt. Un peu le manger avec du pain et des sauces à la tomate. J'aime ce plat parce que c'est un plat délicieux de mon pays. Ça me fait penser à mon enfant, à mon pays, à ma mère, à ma grand-mère. On se transmet les recettes de génération en génération. Je suis enceinte, je cuisinerai ces recettes à mon enfant et je lui apprendrai à cuisiner. À l'époque de mes grands-parents, dans les années 80, on cuisine sur le feu de bois d'or. Mais maintenant, on cuisine plutôt au gaz. Elle est très mal polie de manger rapidement ou de regarder à la téléphone quand on est en train de manger. Dans mon pays, il y a beaucoup de maladies de l'intestin à cause de l'alimentation. En France, je ne suis jamais tombée malade, mais je mange moins de viande car je trouve que les viandes sont conservées longtemps au réfrigérateur et qu'elles ne sont pas très fraîches. En Afghanistan, on mange la viande 3 jours maximum après l'abattage de l'animal. On préfère acheter de la viande très fraîche. Personne n'aime acheter de la viande qui a passé 4-5 jours au réfrigérateur.
Canal B 94.0.
Bonjour, je m'appelle Firdaus, je suis somalienne. J'aimerais vous parler d'une spécialité de mon pays, ça s'appelle Anjero. C'est un plat à base de farine. On le prépare avec de la farine et des légumes, foie de vache et des épices. D'abord, on coupe les légumes et le foie de vache. Ensuite, on fait cuire les légumes et le foie de vache avec des épices. Enfin, on les prépare de la galette de farine et on les mange ensemble. On peut les manger avec de la sauce et de bois chiche. J'aime ces balades car il est délicieux. Et on peut les partager en famille. Ça me fait penser à ma mère car j'ai appris la recette avec elle. Quand j'étais petite, j'aimais la regarder cuisiner. Elle utilisait un grand mortier pour écraser les épices. J'aimais écouter ce bruit. dans mon pays, on cuit des aliments au four, au gaz ou parfois au charbon. On mange des bactéries assises sur un tapis autour d'un grand balat. C'est mal poli de manger avec la main gauche ou de commencer à manger avant les autres.
Pause musicale dans l'émission de Langue et Communication sur Canal B. On écoute le titre Evergreen du groupe Requin.
Falling to pieces under your lemon kisses on her love. Coming to ashes, evergreen, golden love is over. My delusion, your candor, your lemon kisses on her tears. Rolling back roses, evergreen, golden love is over.
Evergreen du groupe Rennais Rocking sur Canal B. On retrouve tout de suite les stagiaires de langue et communication qui réalisent l'interview d'Élise et Clément du Refugee Food Festival.
Bonjour, bienvenue. Nous sommes des stagiaires à langue et communication.
Nous préparons une émission de radio avec Canal B sur la cuisine du monde. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, donc je m'appelle Clément, je travaille pour le Refugee Food Festival à Rennes avec
Élise, co-porteuse du Refugee Food Festival depuis maintenant 3 ans à Rennes.
Depuis quand existe le Refugee Food Festival?
Le Refugee Food Festival existe depuis 2016, il a été créé à Paris, donc ça va être la 11e édition en juin cette année, en 2026.
Depuis quand travaillez-vous pour ce festival?
Alors moi, j'ai commencé l'année dernière, donc ça fait seulement 1 an et quelques mois.
Et moi, c'est ma 3e année. Au début, j'étais bénévole et maintenant, j'organise le festival avec Clément depuis 3 ans. Et chaque année, c'est toujours très, très chouette.
D'où vient et de ces festivals?
Alors donc c'est Marine et Louis qui ont fondé ce festival après avoir voyagé un peu à travers le monde. Et donc, ils ont été très, très bien accueillis partout quand ils ont voyagé, notamment avec des plats. avec la cuisine. Et donc quand ils sont revenus en France, ça leur manquait et c'était au moment où il commençait à y avoir des premières crises avec beaucoup de personnes réfugiées qui arrivaient en France. Et ils trouvaient ça très important de les accueillir et de bien les accueillir. Et donc pour eux, un des meilleurs moyens, le meilleur média pour les accueillir, c'était la cuisine, c'était la nourriture et c'était du coup un beau moyen de partager et un beau moyen aussi de s'insérer dans la société par la cuisine.
Combien de personnes travaillent sur le festival?
Du coup, le festival, il a lieu à Rennes, mais aussi dans 12 autres villes en France. Et à Rennes, du coup, il y a Clément et moi, mais on est toute une équipe de bénévoles autour de nous. On a une quinzaine de personnes, de citoyens qui se sont engagés à nos côtés. Et il y a aussi tous les restaurateurs qui accueillent les réfugiés dans leur cuisine pour participer au festival. Donc ça demande du temps, de l'accompagnement. Chaque année, ça change. On essaye justement d'aller dans différents quartiers de Rennes, différentes tailles, différents prix, pour justement élargir notre réseau. Parce que l'idée, c'est quand même de créer tout un réseau pour vous accompagner, pour vous aider à trouver du travail, pour bénéficier de leur expérience à eux. Et si on peut en citer quelques-uns, l'année dernière, on avait Grabuge, on avait La Petite Ours, on avait Bouliche à Saint-Malo. On est allé jusque Saint-Malo l'année dernière. On avait un food truck, parce que selon les projets de chacun, chacune, vous pouvez avoir envie de travailler dans un grand restaurant, un food truck. Il y en a beaucoup qui rêvent d'ouvrir leur food truck. Donc on était chez Ban Ban Food Truck. On a été à la ferme de Papy Jean, qui est une productrice. Et on a fait un atelier cuisine avec Dania, qui était une réfugiée syrienne. Et on a été aussi à la basse-cour, une guinguette à Rennes très très chouette. Et pour finir, on a fait un partenariat avec Ferrandi Paris, qui est une école de cuisine. Ils nous prêtent leurs locaux pour qu'on fasse un atelier cuisine. Et c'était un atelier afghan avec Murtaza, qui a fait un kabouli et un ferni. Et on a également toutes les structures d'accompagnement qui accompagnent les réfugiés, qui nous envoient les personnes qui ont justement un projet en cuisine. Parce que nous, on ne peut pas les identifier nous-mêmes. Donc ça fait toute une communauté.
Dans combien de villes vous travaillez ?
Donc nous, on travaille exclusivement à Rennes, hein, mais l'association Refugee Food, elle est donc basée à Paris. Donc il y a un gros festival aussi à Paris. Et après, ça s'est déployé dans 11 autres villes, donc 12 villes en tout. Donc c'est des grandes villes, évidemment, qui accueillent des personnes réfugiées. Donc il y a Rennes, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes, Lyon, Lille, Dijon, Bordeaux, Rouen, Paris, du coup, bien sûr, et Tours. Et voilà, je pense que j'ai tout dit.
Combien de festivaliers accueillez-vous ?
À Rennes, l'année dernière, on a évalué à environ 500 personnes, 500 festivaliers.
Ouais. Et on a toujours des frustrés, parce qu'il faut réserver pour venir manger. Et donc, les restaurants sont accaparés très vite.
Ça, c'est dit pour les auditeuristes, il faut réserver.
Est-ce qu'on paye Miss l'honneur chaque année ?
Non, il n'y a pas de pays spécialement mis à l'honneur chaque année. Ça dépendra en fait des profils qu'on a et des projets de chacun. Donc par exemple, l'année dernière, on avait des Afghans.
Des Syriens.
Des Syriens, ouais.
Des Syriennes.
On avait une Tchadienne et on avait un Tibétain. Il n'y a pas de pays mis à l'honneur chaque année. C'est vraiment cette diversité qu'on promeut.
Et cette année, on a commencé à travailler avec une personne irakienne. On a projeté un film avec elle en début d'année.
Quand se déroule le prochain festival ?
Cette année, donc ça va avoir lieu du 7 au 14 juin. Donc le festival, il a lieu tous les ans en juin dans toute la France parce qu'il y a la journée internationale des migrations le 20 juin. Donc en général, on décide d'une date, c'est souvent sur tout le mois de juin, et puis chaque ville va choisir ses dates en fonction des disponibilités des restaurateurs, des personnes, des nôtres également. Donc cette année, on a choisi du 7 au 14 juin, donc ça va être sur deux week-ends, d'un week-end à l'autre.
Dans Rennes ?
À Rennes, oui. Dans plusieurs lieux, donc ça se déroule dans plusieurs...
7 au 14 juin, pendant une semaine. Et cette année, l'édition commencera par le marché à manger. Chaque mois, il y a lieu le marché à manger, le premier dimanche de chaque mois. Et donc, en juin, ça tombera le 7. Et donc, on aura un stand marché à manger où on aura un traiteur qui sera avec un ou une cuisinière réfugiée et ils prépareront à manger.
Combien de jours dure le festival ?
En vrai, ça dépend. Ça peut être entre 5 jours et 2 semaines, on va dire, au maximum. Ça dépend aussi de... En fait, nous, en moyenne, on fait environ 6 ou 7 lieux différents. Donc, ça va être des restaurants, ça peut être des écoles, ça peut être des guinguettes, ça peut être... Mais du coup, on essaye de pas en faire trop, sinon ça devient compliqué à gérer. Donc, on est entre 5 et 7. Et donc, du coup, ça dure... Là, cette année, ça va durer 9 jours environ.
Canal B, radio curieuse.
Comment peut-on y participer ?
Pour venir en tant que festivalier et client, vous allez retrouver la programmation qui sera affichée partout dans Rennes, si nos bénévoles les ont distribués et ont communiqué là-dessus. Et en général, il faut réserver pour pouvoir venir manger dans les différents restaurants. Et il y a aussi des ateliers cuisine, mais on les ouvre qu'à une quinzaine de places. Et ils sont pris d'assaut. Là, le marché à manger, faut mieux venir avant midi. Sinon, on commence à faire la queue. Mais ça a l'avantage de pouvoir venir sans réservation.
Et après, sinon, pour participer en tant que cuisinier ou cuisinière, donc nous, on travaille uniquement avec des personnes qui sont réfugiées, donc qui ont le statut ou qui ont eu le statut. Donc des fois, entre-temps, ils ont eu une naturalisation. Et donc, il faut avoir un projet professionnel dans la cuisine. Et donc, nous, on va accompagner les personnes selon leur profil. Des fois, s'il faut attendre l'année suivante pour faire l'édition parce qu'il manque une expérience ou que les disponibilités sont incompatibles. Voilà, il faut être motivé et il faut avoir le... Nous, on fonctionne uniquement avec des personnes qui ont un statut réfugié. C'est obligatoire administrativement pour le festival.
Et aussi parce que sur le festival, ils sont payés. Donc, on va créer un contrat de travail. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les papiers. Et on accompagne les cuisiniers pendant un an. Et pour les cuisiniers, c'est important quand même d'avoir un niveau de langue, de pouvoir se faire comprendre. Parce que nous, l'objectif derrière, c'est de vous aider à entrer en formation cuisine ou de trouver un travail dans la restauration. Et sans un niveau de langue correct, c'est compliqué.
Comment les jeunes pouvaient venir ?
Donc, nous, on essaye d'avoir plusieurs formats. Donc, il y a des formats sur réservation et des formats sans réservation. Donc là, le marché à manger, par exemple, ça va être sans réservation. Il y a un petit site qui est créé pendant le festival avec la programmation précise, les lieux et leurs adresses. Et donc avec les dates évidemment, si c'est le midi ou le soir pour manger. Donc il suffit d'aller sur le site pour voir la programmation détaillée et de se rendre au lieu. Et puis on rajoute les liens de réservation quand c'est sur réservation, bien sûr.
Parce que chaque restaurant gère ses propres réservations. Donc vous appelez le restaurant, vous réservez en ligne. Voilà.
Qui les voit un meilleur souvenir?
Alors, mon meilleur souvenir, je pense, c'est quand une cuisinière réfugiée est arrivée dans un café pour la première fois. On se rencontrait, on s'est présenté, on a échangé et très vite, elle a sorti de son sac plein de Tupperware avec plein de nourriture qu'elle a posée sur la table et elle m'a dit « il vaut mieux goûter ma cuisine que d'en parler ». Et je me souviens encore de tout ce que j'ai mangé, c'était très très bon.
J'ai beaucoup de meilleurs souvenirs, c'est compliqué, mais peut-être que ce qui m'a marqué, c'est l'année dernière quand on a travaillé donc dans le restaurant Boulish à Saint-Malo, parce que l'équipe était vraiment très très accueillante, mais comme beaucoup d'endroits, et donc ça a été un très très beau moment. En plus, j'avais le Covid à ce moment-là, donc. Ça a peut-être rendu le moment encore plus incroyable. On travaillait donc avec un cuisinier tibétain et c'était très beau de voir le partage en cuisine, de voir la gratitude,
l'hospitalité, les applaudissements. C'est très chouette de voir les gens applaudir et la personne qui est en cuisine prendre confiance et pouvoir s'exprimer grâce à la cuisine.
Avez-vous une anecdote à nous rencontre sur le festival?
Une anecdote. Qu'est-ce qu'on a vécu l'année dernière? Comme ça, on ne sait pas trop, ouais. Il y en a tellement. C'est des moments vraiment humains où on a des personnes qui arrivent, qui sont assez réservées, timides. Et puis, au cours du festival, on les voit s'ouvrir. Et c'est vraiment ça qui est chouette.
Est-ce que il y a des restaurateurs, restauratrices qui ont fini par embaucher quelqu'un qui serait venu faire le festival chez lui, chez elle?
Oui, on a eu du coup le Bloom Pop, qui est un restaurant qui se trouve à La Courrouze. Et on a Anouk, qui est la chef en cuisine, et qui était la première co-porteuse du Refugee Food Festival à Rennes. Du coup, c'est un partenaire essentiel pour nous. Et l'année dernière, elle a embauché Murtaza, qui est maintenant en CDI dans ce restaurant. Donc c'est très chouette.
On aimerait beaucoup que ça se développe, mais pour l'instant, il y a le festival et des petits événements à côté qu'on arrive à organiser de temps en temps, des ateliers dans des écoles ou des projections au cinéma pour l'instant. Mais bon, il faut les moyens aussi, il faut des soutiens, enfin, c'est pas évident. Donc, si vous êtes intéressé pour participer au festival, donc il faut avoir avoir le statut réfugié, ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, qui sont intéressées par la cuisine, n'hésitez pas à nous contacter, donc à rennes@refugeefoodfestival.com.
Moi, je mettrai toutes les infos sur le blog des ateliers radiophoniques de Canal B, sur le site de Canal B.
Une autre annonce, on aimerait travailler dans une cuisine collective, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui cherchent ce genre d'emploi. Et donc, on cherche à travailler soit dans un Crous, soit dans une cantine collective à Rennes ou alentour. Donc, si vous êtes chef, si vous cuisinez dans un lieu comme ça, ou si vous en occupez, n'hésitez pas non plus à nous solliciter. Dans un contexte un peu complexe pour les associations, on cherche également des mécènes, des soutiens publics, privés, de toutes sortes. Et on a également une campagne de dons citoyennes. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous pensez que votre entreprise peut nous soutenir. On est également soutenable via les aides à la formation, donc que les entreprises peuvent diriger.
Les taxes d'apprentissage.
Taxes d'apprentissage, exactement. N'hésitez pas. L'argent des emplois, des emplois en cuisine. On cherche toujours des emplois en cuisine pour les personnes qu'on accompagne.
Et maintenant, les stagiaires vous proposent d'écouter l'interview de Zaliata, traiteur mahoraise à Rennes.
Bonjour, bienvenue. Nous sommes des stagiaires en France et langue et communication.
Nous préparons une émission de radio avec Canal B sur la cuisine du monde. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, je m'appelle Zaliata, j'ai 37 ans, je viens de Mayotte.
Depuis combien de temps vous habitez ici en Rennes?
Depuis 2007 que je suis ici à Rennes. Et après, j'avais déménagé, j'étais passée au sud. Et au sud, j'étais à Castres. Et après, en 2015, je suis retournée à Rennes.
Quand avez-vous écrit votre entreprise de traiteur?
Je l'ai créée en 2025, le 15 juillet 2025.
Où se trouvait votre boutique?
Pour le moment, j'ai pas encore un labo pour cuisiner, mais je cuisine avec les associations. Ils me mettent en dispositif leur cuisine, et après c'est là que j'ai des prestations. Je fais la cuisine dans leur association.
Quel type de cuisine faites-vous?
Alors, moi je fais la cuisine du monde, parce que moi c'est traiteur, saveur 10 langues, cuisine du monde. Je fais la cuisine asiatique, la cuisine française, la cuisine de Mayotte, la cuisine africaine et autres cuisines que je suis en train d'étudier pour rajouter.
Comment trouvez-vous les ingrédients?
Ici à Rennes ou en France, il y a tout ce qu'il faut. Les ingrédients, et il y a, vu qu'il y a les magasins africains, les magasins asiatiques ou bien les magasins français, ou parfois on trouve des magasins qui marquent carrément que, en fait, épicerie du monde. Et là, on trouve tous les ingrédients.
Vous travaillez seul ou avec une équipe?
Pour le moment, je travaille toute seule. Oui, je suis pas avec quelqu'un, mais plus tard, quand ça va prendre une grandeur, c'est là que j'aurai besoin de quelqu'un d'autre.
Et quel est le plat traditionnel de Mayotte?
Alors, les plus grands plats de vrai traditionnel s'appellent le mtsolola ou le pilau, ou sinon c'est les brochettes. Les brochettes, le barbecue, tout ça. Oui.
C'est à base de quoi le pilau?
Le pilau, c'est à base de viande ou bien poulet ou poisson. Ça dépend de ce qu'on peut mettre à l'intérieur.
Couloukoulé, c'est petite rouge.
Ah, goula-goula.
Goula-goula,
goula-goula, en fait, c'est des beignets en forme de... En fait, comment expliquer? C'est des beignets ronds. On fait... C'est de la farine, du sucre.
D'accord.
Que ça, et la levure chimique. Et après, on fait gonfler quand ça soit pendant une heure comme ça. Ou après, on fait des boules. Oui.
Et qu'on fait frire pour faire
voilà.
Un beignet.
Et après, on peut c'est comme les beignets des fêtes foraines. Soit on peut les mettre dans le sucre comme ça, ou bien sinon on peut pocher, on met des crèmes à l'intérieur. En coupant, on a le coulis qui descend.
Et ça, c'est un bon souvenir de Mayotte pour toi, Abdikani. Oh là oui!
C'est du sirop, en fait, c'est fait maison. C'est le tamarin ou le citron. Et après, les mamans, ils fabriquent ça, ils mettent dans les bouteilles, ils mettent au congèle. Et on mange ça avec le goula-goula.
En tout cas, ça a l'air de rappeler des bons souvenirs à Abdikani.
Est-ce que votre travail est difficile?
Non, ce n'est pas difficile parce que j'aime bien la cuisine et j'aime faire plaisir aux gens. Et c'est ça, en fait, c'est ma façon aussi de partager mon savoir-faire, ce que je sais faire. Et j'aime bien le partager en cuisinant et aussi de le faire goûter aux gens, de savoir les goûts que... pour trouver des goûts, des différents goûts de différents pays. Faire voyager les personnes à travers la nourriture.
Est-ce que vous aimez votre travail?
Oui, j'aime bien mon travail. Oui.
Quel est le plus gros défi dans votre entreprise?
Le défi? Il faut que je sois au sommet, en fait. Pour le moment, ouais, j'ai un grand défi à faire. Pour le moment, vu qu'elle est encore petite, il faut que je bosse au maximum pour que ça grandisse.
Quel est votre meilleur souvenir pour travailler?
Mes meilleurs souvenirs, c'est le moment que je vois les gens, les personnes qui sont heureux, en fait. Ça, c'est mon plus beau, en fait. Comment expliquer quelque chose que... Le moment que j'ai fait mes plats et aussi que les gens sont satisfaits. Et aussi qui portent qui voyagent en ce moment-là. Je sais pas, les félicitations, le tout comme ça. Et moi, ça me fait encore plus grandir au fond, dans mon cœur. Et quand je continue, je me dis, en fait, il y a les personnes qui sont en train de me motiver. Et donc,
pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Alors, pourquoi j'ai choisi le métier de la cuisine? Parce que quand j'étais à Mayotte, avec ma grand-mère, je travaillais, je cuisinais avec elle depuis petite. Et après, avec ma mère aussi, et ma grand-mère me montrait des plans des anciens cuisines. En fait, à base de farine de manioc, on fait bouillir, en fait, mettre sur les feuilles de bananier et faire cuire sur à vapeur comme ça. Et aussi, les poissons au coco. Tout ça, ce sont des plats des anciens. Et au fur et à mesure, après, j'ai pris goût. En arrivant ici en France, j'ai fait de l'agriculture, un bac pro agricole. D'après, j'étais au sud, à Oloron-Sainte-Marie. Le moment que j'ai fini mon bac pro, je suis arrivée à Rennes et j'ai commencé à faire une formation cuisine.
Un week-end, vous travaillez combien de jours?
Ça dépend de... des prestations que j'ai. Pour le moment, vu que j'ai pas un labo fixe, parce que je suis privée. Et les associations, si ça dépend que si c'est des prestations de associatifs, là j'ai les cuisines. Mais là, je suis en train de faire une autre chose pour que je sois intégrée en fait en tant qu'association. Et comme ça, je pourrais travailler dans la cuisine toutes les semaines.
Et il y a des associations qui ont fait plusieurs fois appel à vous, avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler ?
Oui. Alors, j'ai l'association qui s'appelle c'est le PAM. Le PAM, c'est en fait l'Animétis. Et aussi, j'ai une autre aussi. Là, exemple, là, j'ai une prestation qui va se faire au mois d'avril avec Vilaine Pousse. C'est l'association d'agriculture. C'est un goûter. Et après, il y a aussi, en avril aussi, je vais faire avec la famille Walili. Je ne sais pas si vous connaissez. Il tient des chapiteaux au Gaïeul. Là, tout le mois d'avril, il est rempli à cuisiner. Et aussi, j'ai l'association La Cohue aussi. Et aussi, ben là, je vais faire la cuisine aussi.
Et comment ça se passe? C'est vous qui arrivez avec vos ustensiles et vos ingrédients? Et on vous met juste la cuisine à disposition, ou est-ce que les gens achètent aussi les ingrédients? Comment ça se passe?
C'est moi-même qui achète tout. Et après, je fais les factures, le devis, les factures, et j'envoie. Et après, c'est la disposition de la cuisine. Et après, moi, je cuisine. Et c'est moi qui fais le menu aussi. Ça, ce qui est bien, que c'est moi qui propose les menus.
Et Mayotte, en fait, de sa situation géographique, vous avez plein d'influences. Vous parliez de l'Asie, l'Afrique aussi. Vous avez toutes ces influences mêlées dans la cuisine mahoraise.
Alors moi, je suis mélangée. En fait, mon père c'est de Madagascar et sa famille de Madagascar. Ils ont plein de mélanges. Il y a une partie asiatique, une partie arabe, une partie... Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regroupe tout cette richesse.
Et alors, si vous ne deviez avoir qu'une seule épice, la question impossible.
Oui.
On imagine, il n'y a plus d'épice, il en reste une. Pour vous, c'est laquelle?
Le piment.
Le piment.
Mm-hmm.
Vous êtes d'accord avec ça? Anan, Firdaus et Abdikani sont d'accord avec le piment. Cher aussi. S'il reste une seule épice, hein, y a, dans le monde, il n'y a plus rien. Une seule. Sarah, elle hésite.
Pardon, les piments, c'est les piquants?
Oui, c'est pour donner du piquant, oui. Sarah et Sadaf aussi?
Oui.
Ah ouais, ok. Bon, ben...
Pourquoi les piments, alors?
Est-ce que vous étudiez la cuisine professionnelle?
Alors, j'ai fait un CAP cuisine et un CAP pizzaiolo.
Pizzaiolo. Vous comprenez?
Non,
pizzaiolo. Pizzaiolo. Alors, regarde. Alors déjà... Je vais écrire le diplôme. C'est le CAP. Ça, c'est le premier diplôme à avoir quand on veut faire un métier. Souvent, on vous demande, le premier, c'est est-ce que vous avez un CAP? Et on a dit, donc, pizza, c'est de l'italien. T'ajoutes YOLO, je crois que c'est comme ça. Hein. La pizza, tu vois ce que c'est? Ouais. Donc, pizza YOLO, c'est les gens qui sont capables de faire des pizzas, de faire la pâte, de la faire tourner. Mais c'est vraiment quelque chose de précis parce qu'il y a des concours internationaux pour savoir qui est le ou la meilleure pizzaiolo. Et c'est un mot italien.
Comment on vous contacte?
On peut me contacter sur le 06 50 81 14 27 ou sinon sur l'adresse email saveurdilang@gmail.com.
Et Dilang, c'est D Y-L-A-N-G.
Oui, le Dilang parce que c'est la fleur Ilang-Lang.
Cette émission est à présent terminée. Retrouvez le second volet la semaine prochaine, samedi 11 avril à 10h sur Canal B, avec notamment l'interview des membres de l'association VRAC de Rennes et d'autres chroniques. Salut et bon week-end.
Gabriela Tmirtuit.
Unta Wanaxen.
Wajbahania.
Nushaja.
Приятного аппетита.
Шойхуб. Гинхади.
Avmadgun.
Buen provecho.
Enjoy your meal.
Bon appétit.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.